Chapitre 10 « La vertu royale du service d'amour ». En face des exigences de la charité fraternelle, certaines âmes jettent les hauts cris et prétendent qu'on leur demande l'impossible. Aimer, pardonner, oublier les torts reçus, à les entendre, elles en sont décidément incapables. Et pourtant, parmi elles, il s'en trouve qui placent très haut leur idéal d'amour divin. Jamais elles ne l'atteindront aussi longtemps que leur esprit se révoltera devant le précepte de la charité envers le prochain. Ouvrons l'Évangile. Un docteur de la loi demande un jour à notre Seigneur quel est le plus grand commandement, et il en reçoit cette réponse : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand commandement et le premier. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voyez à quelle hauteur Jésus élève l'amour du prochain. Il le met en quelque sorte sur un pied d'égalité avec l'amour de Dieu. Saint Thomas d'Aquin a écrit « L'amour dont nous aimons le prochain est de même espèce que celui dont nous aimons Dieu. » Garrigou Lagrange a écrit « Il n'y a pas deux vertus de charité, l'une relative à Dieu et l'autre relative au prochain. C'est une seule et même vertu théologale. » L'amour de nos semblables est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui a Dieu pour objet immédiat et dont le rôle est de nous unir directement à Dieu, privilège que n'ont pas les autres vertus. Tous les hommes dans le Christ sont un seul homme, dit saint Augustin, et l'unité des chrétiens ne fait qu'un homme. Les chrétiens, avec leur tête, forment le Christ. Il ne faut pas dire qu'il est un et que nous sommes multitude, mais que nous, la multitude, en lui, nous sommes un. Il y a un homme, le Christ, tête et corps. La conséquence de cette doctrine, c'est qu'on ne peut faire aucun bien ni aucun mal au prochain sans que le Christ le ressente lui-même. L'amour surnaturel du prochain n'est qu'une manière d'aimer Dieu. Si l'on scrute le contenu de sa première épître, qui est toute une révélation à ce point de vue, on remarque bientôt que les textes relatifs à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain sont intimement liés. On parle de la première épître de Jean. « Si quelqu'un prétend aimer Dieu, dit-il, sans aimer son frère, il ment. Nous avons reçu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Sublime mystère d'identification. Nous en Jésus et Jésus en nous. N'est-ce pas l'union la plus absolue, une réelle incorporation? C'est bien notre pauvre humanité assumée, absorbée par son humanité sainte. C'est bien notre sort intimement lié au sien. Cette solidarité étroite que la grâce établit entre Jésus et nous, voilà ce qui fait l'exceptionnelle grandeur de la charité fraternelle. Aimer le prochain surnaturellement, c'est aimer le Christ. L'apôtre Paul a écrit « Celui qui aime son prochain accomplit la loi ». En d'autres mots, il accomplit les exigences de Dieu, toutes les exigences de Dieu. Les saints qui sont de grands clairvoyants n'ont pas manqué de saisir la profondeur de cette doctrine. Autant ils ont aimé Dieu, autant ils ont pratiqué la charité envers le prochain. Selon saint Augustin, il n'y a pas de plus sûr chemin pour arriver à l'amour de Dieu que la charité pour nos semblables. La charité a deux pieds, dit-il. Prenez garde d'être boiteux. Ces deux pieds sont les préceptes de l'amour de Dieu et du prochain. Sainte Thérèse d'Avila a écrit « On ne peut pas savoir si l'on aime Dieu, mais l'amour du prochain, on peut le connaître. Plus vous y avancerez, plus vous devrez vous tenir assuré que vous avancez dans l'amour de Dieu. Ce Dieu de bonté nous aime tant qu'en paiement de notre amour du prochain, il augmente de mille manières notre amour pour lui-même. Je n'ai pas là-dessus le moindre doute. Si nous manquons à cette charité mutuelle, nous sommes perdus. » Le Père éternel disait à Catherine de Sienne, « Dès qu'une âme m'aime, elle aime le prochain, sinon son amour n'est pas véritable, car mon amour et l'amour du prochain ne font qu'un. Plus une âme m'aime, plus elle aime le prochain. » Le Père Benuccio a écrit, « Je veux que vous sachiez qu'on ne peut aimer Dieu si ce n'est par le moyen du prochain. Comment cela, je vais vous le dire, l'amour que j'ai pour mon Créateur, je ne puis lui en donner à lui-même des preuves. Il est impossible de rendre service à Dieu, etc. Il convient donc d'avoir recours à la créature comme à un intermédiaire, de venir en aide à la créature et de lui rendre ses services que je ne puis rendre à Dieu. Et c'est pourquoi le Christ, s'adressant à Saint-Pierre, lui demande « Pierre, m'aimes-tu ? » Sur sa réponse affirmative, le Christ reprend « Paix, mes brebis. » Cet amour que tu as pour moi, en d'autres mots, ne peut me faire aucun bien. Fais donc du bien à ton prochain. Thérèse de l'Enfant Jésus, peu de jours avant sa mort, a dit qu'on est heureux de mourir après avoir passé sa vie dans l'amour. Si vous voulez vivre l'amour de Dieu, disait-elle encore, ne manquez pas la charité envers le prochain. La charité fraternelle, c'est tout sur la terre. Fin de citation. L'exercice constant de la charité fraternelle suppose presque toutes les vertus, tandis qu'aucune autre ne la remplace. On est donc loin ici de ces affections sensibles qui naissent dans la passion humaine ou qui sont basées sur des qualités frivoles. Défions-nous de ces attaches imprudentes qui sont un des plus grands obstacles au progrès spirituel. Les vraies amitiés chrétiennes sont une sauvegarde, un appui au chemin de la perfection. Elles ne sont ni absorbantes, ne sont pas supposées l'être, ni exclusives, et ne nuisent pas à la charité commune. Néanmoins, pour en tirer de véritables avantages, il faut qu'on surveille son cœur, afin que l'élément sensible n'y prédomine pas, et que l'amour vertueux ne dégénère pas en amour sensuel. Un moyen efficace de maintenir ces amitiés sur le plan surnaturel, c'est de les assaisonner de sacrifices, en se privant des rencontres inutiles, en évitant toute familiarité et toute parole affectueuse. Notre Père céleste, lui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu ne fait pas de distinction, nous ne devons pas en faire. Il aime tous les hommes, il veut les rendre tous heureux. La note des enfants de Dieu, disait saint Augustin, et ce qui les sépare des enfants du diable, c'est uniquement la charité. Exclure délibérément une seule personne de notre charité surnaturelle, c'est manquer aux préceptes et cesser d'être charitable. L'amour que nous devons au prochain n'est pas un mouvement de la sensibilité ni un émoi du cœur, mais une disposition de la volonté. Il dépend donc de nous d'aimer nos semblables comme le veut notre Seigneur. Ce bon maître nous a singulièrement facilité la pratique de cette vertu en la faisant reposer non sur des motifs humains mais surnaturels. Il nous dit « Aimez votre prochain non pour lui mais à cause de moi. Aimez-le parce que je l'aime, parce que j'ai versé mon sang afin de sauver son âme et de le rendre co-héritier de mon royaume. » Ah, combien l'exercice de la charité nous serait doux et méritoire si nous regardions toujours le prochain à la clarté de l'amour que Jésus lui porte. Habituons-nous à dire et à nous redire souvent en regardant le prochain « C'est un frère pour lequel Jésus-Christ est mort. » Ce motif assurera à notre charité sa valeur surnaturelle et les récompenses qui lui sont promises. Il y aurait beaucoup à dire de nos manquements à la charité, car la simple liste des fautes contre la charité est passablement longue. Jugement téméraire, calomnie, médisance, jalousie, dénigrement, soupçons non fondés, accusations injustes, interprétations malveillantes, demi-mots perfides, sous-entendus, réticence nuisible, haine, rancune, discorde, rapport faux, exagéré ou indiscret, injure, mépris, moquerie blessante, vengeance, etc., etc. Nous n'avons pas lieu d'être fiers d'une telle profusion de mots pour désigner nos manquements à la plus importante des vérités chrétiennes et de sa vertu. Les péchés de la langue y tiennent une large place. Ils sont le fait non seulement de consciences vulgaires qui ne font pas profession de vertu, mais aussi d'âmes pieuses qui ne combattent pas assez leurs tentations de jalousie, d'empathie de rancune. Saint Bernard a écrit cette langue qui s'attaque au prochain est plus cruelle que la lance qui transperça le côté de notre Seigneur. Elle aussi, elle blesse le corps du Christ, un de ses membres. Elle le blesse. Elle est plus malfaisante que les épines mises sur la tête de Jésus, plus que les clous enfoncés dans ses mains et dans ses pieds par la méchanceté. Dans les écrits de la mère Louise Marguerite Claret, a été suscité pour une mission spéciale en vue de la sanctification du clergé. On lit ce qui suit. Notre Seigneur ne veut pas que rien dans ce qui sera écrit ou dit puisse jeter des ombres sur ses consacrés, ses bénis. Il veut, notre divin Jésus, qu'on porte dans cette œuvre de la sanctification du prêtre d'infinie délicatesse. Jésus n'aime pas que sous prétexte de redresser certains torts, de corriger certains défauts, on parle sans respect ni délicatesse, et qu'on livre au monde les défaillances de ceux qui doivent être le sel de la terre et la lumière des intelligences. Ce qui est dit du prêtre s'applique également aux pasteurs d'églises, de petites églises évangéliques. Tout dirigeant doit faire l'objet de miséricorde en la réprimande. Et nous disons cependant, c'est si peu de choses qu'une parole. Je l'avoue, une parole est chose bien légère, elle vole rapidement, mais quelle blessure elle fait. Aussi viole-t-elle facilement la charité. Les actes positifs de charité sont le meilleur remède à toutes les fautes contre cette vertu. Il en est de l'amour du prochain comme de l'amour de Dieu. Tant qu'on reste dans le négatif, on est en danger immédiat de déchoir. Vouloir simplement éviter de faire tort à ses semblables, c'est une chimère. On ne peut pas y arriver. Pour y parvenir, il faut dépasser cette limite en s'efforçant de leur faire du bien. Voulez-vous ne jamais parler en mal de personne, habituez-vous à dire du bien de tout le monde. L'amour donne, c'est sa loi. Que donner au prochain? Voilà la question pratique. Lorsqu'on se rappelle la parole de notre Seigneur, « Aimez-vous comme je vous ai aimé », tout de suite on pense, « Il nous a aimés, lui, jusqu'à mourir pour nous. » Et l'on rêve de donner sa propre vie pour nos frères, nous aussi, si un jour elle nous est réclamée. Certes, ce sentiment est noble, mais trop souvent illusoire. Le prochain n'a pas besoin du sacrifice de notre vie pour être heureux, mais il a toujours besoin de notre charité, de notre indulgence, de nos bons offices, et quelques-uns des dons que nous pouvons lui offrir sans qu'il nous en coûte la vie. D'abord, le monde matériel à ceux qui sont pauvres. L'aumône couvre la multitude des péchés. Faites l'aumône de votre superflu et tout sera purifié pour vous. Ce sont tous des textes de l'Évangile. En Actes 10, 4, un ange a dit à Corneille, « Tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Faire l'aumône est le grand moyen de salut accordé aux riches. Le devoir de l'aumône ne regarde pas seulement les capitalistes et les rentiers. C'est une obligation pour tous. Vous vous excusez de ne pouvoir faire la charité sous prétexte que vos revenus sont minces, votre salaire insuffisant. C'est peut-être vrai. Mais combien dépensez-vous pour vos amusements, vos gourmandises et vos vanités? Il faudrait au moins donner une somme égale à nos mondes. Si vous avez peu, mais donnez de bon cœur. Le temps est parfois ce qu'on a de plus précieux. Il faut savoir le donner à qui le demande, le laisser prendre à qui en a besoin. Je dirais, il faut savoir perdre en apparence beaucoup de temps au bénéfice des autres si l'on veut être charitable à fond. C'est parfois coûteux, on a ses occupations, ses soucis, ses fatigues. Le prochain n'est pas toujours délicat, il se montre parfois importun. Ses demandes de service arrivent à contre-temps. Qu'importe, ne nous dérobons pas. C'est sur ce terrain obscur que la charité fraternelle cueille ses plus beaux lauriers. N'oublions pas ceci, pour rendre service, il faut toujours se déranger. Penser aux autres avant de penser à soi. Si nous attendons qu'il ne nous en coûte rien, jamais nous ne pratiquerons cette forme de charité. Heureuses les âmes oublieuses d'elles-mêmes, qui savent se mettre ainsi à la disposition de tous, comme un bon pain que la charité fraternelle consacre à l'usage commun et auquel chacun peut venir mordre. Il y aurait un moyen pour elles, comme pour le pain, d'être moins mangées. Ce serait de se faire dur et sèche. Tant de gens excellent en cet art détestable. Ils se montrent rigides, fermés, inaccessibles. Leur seul aspect rebute et donne envie de fuir. C'est ainsi que leur égoïste tranquillité se trouve à l'abri de tout dérangement. Mais les âmes charitables se gardent bien d'un tel procédé. Leur physionomie ouverte et accueillante semble vous dire « Que puis-je faire pour vous ?» Ainsi, lorsqu'on a besoin d'un service, d'un encouragement, d'un conseil, c'est à elles qu'on va. Et toujours on trouve leur cœur riche de bonté et de compassion, leur esprit illuminé des clartés d'en haut. Car Dieu est avec de telles âmes. Il leur communique largement ses trésors pour qu'elles les répandent autour d'elles. C'est à une pareille vie d'oubli de soi que s'applique le mot de saint Paul « Je meurs chaque jour ». Ne craignons pas que le temps consacré à l'exercice de la charité soit perdu pour notre vie intérieure. Sainte Thérèse d'Avila, qui s'y connaissait en grâce de prière, confirme que le but de ces grâces est de produire des œuvres et des œuvres. « Dieu veut des œuvres, » dit-elle. « Si donc vous voyez une personne infirme ou souffrante, que vous puissiez soulager en quelque chose, quittez hardiment votre dévotion pour l'assister. Compatissez à ce qu'elle endure, que sa douleur soit aussi la vôtre. Ici, pour lui donner la nourriture dont elle a besoin, il faut que vous jeûniez. Faites-le de grand cœur, non seulement pour l'amour d'elle, mais pour l'amour de Dieu qui vous le demande. Telle est la véritable union à la volonté divine. L'âme qui aime vraiment Dieu n'hésite jamais sur le point capital de la charité envers le prochain. À toutes les extases, elle préfère l'humble et obscur dévouement aux autres. Et elle se méfierait des consolations spirituelles qui ne la rendraient pas plus indulgente, plus serviable, plus dévouée aux personnes qui l'entourent. Le père Rusbrook a écrit « La consolation intérieure, écrit un grand mystique, est d'un ordre moins élevé que l'acte d'amour qui rend service. Si vous êtes ravi en extase, aussi haut que Saint-Pierre et Saint-Paul, et si vous apprenez qu'un malade a besoin d'un bouillon chaud et de tout autre secours du même genre, je vous conseille de vous réveiller un instant de votre extase et de faire chauffer le bouillon. Ce qu'il n'est jamais permis de refuser au prochain, c'est l'aumône de notre bonne humeur, de notre amabilité. Certaines gens ont l'art de se rendre à eux-mêmes et de rendre aux autres la vie pénible. Ils sont maussades et trouvent à redire de tout. Le bonheur des autres leur fait mal. Ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir l'audace d'être joyeux quand ils sont ennuyés et mécontents. En leur compagnie, on a le cœur serré, l'esprit contraint. On étouffe. « Quand on vit près des saints, » a écrit Louis Bertrand, « on s'aperçoit bientôt que ce sont les plus aimables des créatures. » La grande Thérèse d'Avila, une des saintes les plus souriantes et les plus joyeuses qu'on ait vues, recommandait à ses filles de se montrer affables, afin qu'au sortir de leur entretien, la vertu, au lieu d'effaroucher et de décourager ceux qui auront traité avec elle, n'ait plus que des charmes pour eux. Elle ajoutait, « Cet avis est de très grande importance pour la religieuse. Plus elles sont saintes, plus elles doivent avoir avec leurs sœurs la conversation aimable. » Que donner encore au prochain? De l'indulgence, beaucoup d'indulgence. Les hommes sont en général meilleurs qu'ils ne paraissent, mais on ne le découvre qu'à la condition de les regarder sans prévention, avec des yeux clairvoyants. La plupart des jugements sévères et des interprétations défavorables s'expliquent par le manque d'horizon et l'étroitesse des vues. On voit tout sous un mauvais jour et dans des perspectives faussées. Les saints et les humbles de cœur sont de grands indulgents. Les saints, parce qu'ils vivent près de Dieu, participent en quelque sorte à l'attribut de sa miséricorde. Les humbles, parce qu'ils connaissent leur propre faiblesse, ne s'étonnent pas de celle des autres. Sachant par expérience combien les bons désirs et les plus ferventes résolutions restent toujours fort en deçà de leur réalisation pratique, ils savent rendre justice à la bonne volonté quand il n'y a pas succès. L'indulgence n'est pas un optimisme naïf qui voit le bien partout et qui possède aussi le moyen facile d'innocenter les actes malheureux du prochain. Si elles excusent tout, c'est qu'à travers les erreurs et les fautes, elles discernent des causes secrètes des circonstances atténuantes qui en diminuent la responsabilité immédiate. Loin de les condamner a priori, elle cherche à y porter remède par la compassion, l'assistance discrète, la bonne parole dite à propos. Elle voit les bons côtés du prochain et le bien dont ils restent capables en dépit de leur misère réelle. Cette indulgence de jugement est un remède incomparable contre les manquements à la charité. Elle coupe le mal à sa racine la plus profonde. Faisons-en l'essai et nous verrons bientôt nos rapports avec le prochain complètement transformés. Petites âmes qui voulaient aimer Dieu et qui souhaitaient ardemment le faire aimer, soyez indulgentes à l'excès lorsque votre devoir d'État ne vous oblige pas à corriger et à punir, comme c'est le cas de ceux qui sont en poste d'autorité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus voyait-elle commettre une faute, aussitôt elle s'empressait d'excuser le coupable et de lui prêter de bonnes intentions. C'est si doux, disait-elle, de penser du bien des autres. Quand nous aurons ainsi adouci notre cœur d'avance par l'habitude des pensées charitables, il nous sera facile d'accorder aux prochains les pardons généreux dont ils ont besoin. Après leur avoir donné notre argent, notre temps, nos dévouements, notre bonne humeur et notre indulgence, il nous restera encore à lui donner des pardons. La loi du pardon est essentielle au salut. On dit souvent « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Si vous avez bonne mémoire, on ne peut vous en faire grief, mais c'est dans la volonté que l'oubli doit se produire. Votre volonté doit vous porter à agir comme si la mémoire avait oublié. Rendre le bien pour le mal, c'est là le couronnement de la charité, un signe authentique d'union intime avec Dieu et une marque de spéciale prédestination. Quand Dieu a sur une âme des desseins particuliers de sanctification et d'apostolat, il lui fournit des occasions de pratiquer jusqu'à ce degré la charité fraternelle, en lui accordant l'insigne honneur d'être en but, comme son divin fils, à des persécutions ouvertes ou sournoises, à des préventions injustes, à des malveillances déclarées. Oh, comme le cœur souffre alors, mais ces âmes ne se plaignent pas, elles ne se vengent pas. Elles prient pour ceux qui sont les instruments de leur martyr, comme on prie pour ses plus grands bienfaiteurs, et l'occasion venue, elles rendent le bienfait pour l'injure. Rien ne dilate le cœur comme d'être bon. C'est une bien douce jouissance de sentir que pour nous, des besoins ont reçu du secours, des affections, des afflictions ont été consolées, des âmes sont devenues plus heureuses et meilleures. C'est tellement vrai qu'un auteur spirituel a pu écrire « Une des plus grandes punitions que Dieu puisse infliger à une âme, c'est de lui ôter le moyen de faire du bien ». Cette punition, il l'inflige momentanément à ceux de qui il attend beaucoup et qui lui sont infidèles. Faire le monde est une grâce que Dieu n'accorde pas à tout le monde. N'avoir personne à rendre heureux, n'avoir que soi, toujours soi, unique objet de ses efforts, de ses labeurs, de ses pensées, que c'est dur et que c'est triste. Mon Dieu, envoyez-moi d'autres punitions, mais laissez-moi quelqu'un à qui je puisse me dévouer. » Citation de Mgr Sylvain. Une autre récompense de la charité, c'est la certitude qu'elle nous donne d'être en règle avec Dieu. Selon la parole même de Jésus, l'amour du prochain est le signe auquel on reconnaît ceux qui sont à lui, et donc ceux qu'il aime en vérité. Dans la vie spirituelle, on est quelquefois privé de toute consolation sensible, et l'on doute de son amour pour Dieu. Quand il nous arrive, petites âmes, de passer par cette cruelle incertitude, interrogez-vous, non sur vos mortifications, non sur votre fidélité extérieure à vos pratiques de piété ou religieuse, non sur votre degré de ferveur apparente, mais interrogez-vous sur votre charité envers le prochain. Si vous pouvez loyalement vous rendre sûr de ce point un témoignage favorable, réjouissez-vous. Votre amour pour Dieu est de bonne marque. Outre cela, et quelles que soient les apparences contraires, il est en bonne voie de progrès. En paiement de votre amour du prochain, ainsi que l'affirme sainte Thérèse d'Avila, Dieu augmentera de mille manières votre amour pour lui-même. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, déclare Jésus, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà certes une récompense bien digne de nous tenter. Le pardon de Dieu n'est-ce pas pour chacun de nous l'assurance du ciel? Dans la mesure où je pardonnerai, Dieu me pardonnera. Mon salut éternel tient donc à une seule chose, et cette chose, c'est le pardon que j'accorde à tous ceux qui m'offensent, me nuisent, me haïssent. Dieu se comportera envers moi de la même façon dont je me comporte envers le prochain. Par conséquent, tout le bien que je ferai aux autres me reviendra directement à moi-même en passant par le cœur de Dieu. Je saurai donc maintenant comment prendre d'assaut le cœur de mon Père du ciel. Quand j'aurai besoin d'une grâce, je commencerai par faire un acte de bonté à quelqu'un, de préférence à un pauvre, un malade, un affligé, un rebuté, un vieillard. La suprême récompense de la charité, c'est la béatitude éternelle. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, dit « Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais errant et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez soigné. Prisonnier et vous m'avez rendu visite. » On voit ici la nécessité des bonnes œuvres envers le prochain, puisque leur accomplissement est la seule chose que le juge suprême louera et récompensera au dernier jour, tandis que leur omission sera regardée par lui comme un crime digne de la damnation éternelle. C'est à ces solennelles assises que se vérifiera l'oracle des saints livres, jugement sans miséricorde à celui qui n'aura pas fait miséricorde. Jacques 2,13. Mais les miséricordieux, selon la promesse du Sauveur, obtiendront miséricorde. Profession de charité. Je fais profession de ne haïr jamais rien, rien du tout que le péché. Deuxièmement, de vouloir aimer tout le monde pour l'amour de vous. Troisièmement, de ne penser, ni dire, ni faire mal à personne, mais de bien penser, bien dire, bien juger, bien faire à tout le monde, d'excuser et de supporter les défauts d'autrui, d'expliquer tout en la meilleure part. Quatrièmement, je fais la profession d'avoir compassion des misères corporelles et spirituelles de mon prochain et de me comporter envers un chacun avec toutes sortes de douceur, bénignité et charité. Saint Jean Eudes a dit « Ô charité éternelle, je me donne à vous. Anéantissez en moi tout ce qui vous est contraire et établissez votre règne dans mon cœur et dans tous les cœurs des chrétiens. Amen. »